Bien, je vois que la salle est déjà comble. Bon, j'espère que vous profitez bien de vos utopiales. Donc, bienvenue sur cette table ronde où on va parler du titre qui est peut-être un peu mystérieux avant que je vous raconte ce que c'est Dark Matter Day. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'aujourd'hui est un jour particulier. Il a été décidé mondialement que c'était un jour dédié à la matière noire. Donc, j'espère que vous ressortirez de cette table ronde en sachant parfaitement ce que c'est que la matière noire. Je peux déjà vous dire que non, parce qu'en fait, on ne sait pas, pour être précis. Et donc c'est le jour de la matière noire, il paraît que c'est pas innocent si ça coïncide avec Halloween, dark, sombre, inquiétant peut-être, on va voir. Et le thème des utopiales cette année c'est le corps, alors c'est pas forcément facile de faire le lien entre la matière noire et le corps, juste pour l'anecdote je peux vous mentionner qu'il y a un auteur de science-fiction qui l'a fait, qui a écrit un livre qui s'appelle Starplex, il s'appelle Robert Sawyer, et il a inventé des êtres faits de matière noire, pensants. Une espèce de grande géante, plus grande que Jupiter, donc ça va peut-être résonner avec des choses qu'on dira tout à l'heure, mais qui, contrairement à Jupiter, enfin remarque, je ne sais pas, sont pensantes. Donc là, peut-être, il y a un lien, je vous invite à aller voir à aller lire ce roman. Mais pour aborder la question aujourd'hui, on va plutôt l'aborder de façon assez scientifique, puisque nous avons quatre scientifiques de haute volée sur ce plateau. Alors je vais peut-être commencer par mon extrême gauche, avec Jean-Marc Bonnet-Bidot. Donc tu es astrophysicien au CEA. Donc tu es plutôt spécialisé dans les structures des objets, des astres les plus denses de la galaxie, naines blanches, trous noirs, ce genre de choses. Et tu es aussi extrêmement engagé dans la médiation scientifique. Tu as écrit plusieurs publications et tu t'intéresses à la cosmologie moderne, mais aussi aux cosmologies anciennes. Et tu es également auteur de documentaires pour le CNRS, France 5 ou Arte, donc un grand communicant. Donc. À ta droite, Marie-Angela Settimo, qui est une physicienne du CNRS. Tu travailles au laboratoire Subatech, qui est pas loin, là, un laboratoire de Nantes. Tu as commencé par traquer des rayons cosmiques dans la Pampa, en Argentine, avant aujourd'hui de t'intéresser aux neutrinos qui sont émis par les centrales chinoises, donc j'imagine que tu voyages beaucoup. Et tu t'intéresses, pour ce qui est de la matière noire, à une expérience qui est au laboratoire souterrain de Modane, donc sous une montagne. Tu nous raconteras peut-être pourquoi sous une montagne tout à l'heure. À ta droite, Dominique Terre, qui est également de Subatech, également chasseur de matière noire. Donc toi, tu es enseignant-chercheur à l'Institut Mines Télécom de Nantes, tu travailles également au laboratoire Subatech, comme je l'ai dit. Toi, tu chasses la matière noire avec une autre expérience qui s'appelle Xénon, également souterraine, dans un autre laboratoire souterrain qui s'appelle le Grand Sasso. Tu nous en diras peut-être un mot. Et par ailleurs, tu t'intéresses, alors peut-être plus en lien avec le thème des utopiales, mais pas avec le thème de la table ronde, à l'imagerie médicale et à l'utilisation de techniques inspirées de la physique des particules à des fins d'imagerie médicale. Et enfin, Nathalie Besson, tu es chercheuse au département de physique des particules du CEA. Tu travailles au CERN sur l'expérience géante, si je puis dire, Atlas, qui a permis la découverte du boson de Higgs. Toi, tes particules, c'est plutôt les bosons électrofaibles W et Z. Et tu fais également beaucoup de vulgarisation scientifique dans les écoles, à la radio, en conférence, et même, m'a-t-on dit, sur les planches au théâtre. Donc peut-être tu pourras jouer quelques... Non, peut-être pas. On verra. Donc voilà le panel qui va vous parler de la matière noire. La première question qu'on peut se poser tous ensemble, c'est quoi la matière noire? Et peut-être plutôt, avant d'essayer de savoir c'est quoi, peut-être vous pouvez nous dire comment on sait qu'il y a de la matière noire. Quels sont les signes qui montrent qu'il y a autre chose que la matière normale et la matière noire? Jean-Marc, peut-être, puisque c'est toi l'astrophysicien.
Oui, je suis observateur en plus. D'ailleurs, je remarque que je suis le seul habillé en noir pour le Dark Matter Day. Bon, voilà, mes collègues n'ont pas osé faire... et pourtant, je suis un de ceux qui croient le moins à ce que la matière noire existe. Donc, c'est assez amusant. En fait, comment on sait, comment on pense qu'il y a un problème avec la matière, c'est qu'il y a une différence entre la matière que l'on détermine par ce que l'on voit et la matière que l'on détermine par la gravitation. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a deux embranchements possibles. Soit on ne voit pas tout ce qu'il faudrait voir, soit la gravitation n'est pas tout à fait celle qu'on croit. Alors, pour le début, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a peut-être trois dates essentielles, comme ça sera simple pour vous, qui vont vous montrer comment on est arrivé à considérer ce problème de la matière noire. La première est assez lointaine, c'est en 1933, où un astrophysicien suisse assez iconoclaste s'est aperçu que, vous savez que les galaxies se regroupent dans des amas de galaxies, et que certaines de ces galaxies au sein des amas avaient des vitesses trop élevées. Alors des vitesses trop élevées, ça veut dire quoi? Vous savez que sur Terre, si vous envoyez un caillou vers le haut, il va retomber. Sauf que si vous l'envoyez assez vite et assez fort, par exemple à la vitesse de 11 km par seconde, c'est-à-dire à peu près 40 000 km/h, alors n'essayez pas, vous n'allez pas y réussir, mais théoriquement on pourrait, à ce moment-là, le caillou va partir. Il va s'échapper. Mais c'est exactement ce qu'a trouvé Fred Zwicky. en mesurant la vitesse des galaxies dans les amas, il a mesuré que certaines avaient des vitesses qui normalement devaient les faire sortir de l'amas. Mais évidemment, la contrepartie de ça, si vous voulez que ces galaxies restent, eh bien, il fallait se dire qu'il y avait plus de matière que ce qu'on ne voyait avec nos télescopes. Alors à l'époque, en 1933, ça n'a pas paniqué grand monde. Parce qu'on savait très bien qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas vraiment. Pour les voir, il faut que ça émette suffisamment de lumière, et en plus une lumière que l'on capte avec certains types d'instruments. Donc 1933, personne ne s'est paniqué sur le fait de la matière noire. D'ailleurs, on n'a même pas employé ce mot-là à ce moment-là. Mais ensuite, c'est devenu un peu plus compliqué en 1970, quand une astrophysicienne américaine, Vera Rubin, a déterminé que c'était la même chose pour des étoiles dans une galaxie. La même chose, plus on allait vers l'extérieur de la galaxie, plus les étoiles tournaient trop vite, elle aurait dû sortir de la galaxie et pourtant elles y restaient. Donc ça veut dire qu'il y avait de la matière, il y a tout au moins une attraction qui les faisait rester dans les galaxies. Et puis alors là, on atteint la cosmologie parce que c'est très important de comprendre ça. En 1981, il a fallu réformer le modèle du Big Bang. Pour des raisons peut-être qui vont être trop compliquées à expliquer ici, on a dû inventer au début du Big Bang une phase qu'on a appelée l'inflation. C'est-à-dire l'univers au début de son expansion a cru démesurément. Je ne vais même pas vous donner les chiffres, tellement c'est phénoménal, mais pratiquement de la taille d'une tête d'épingle, tout d'un coup, il a pratiquement acquis la taille qu'il a aujourd'hui, l'univers observable. Et donc, le corollaire de cette hypothèse-là, c'est qu'il fallait que l'univers ait une beaucoup plus grosse densité. Et là, le problème de la matière noire a commencé. Parce qu'autant dans la galaxie ou dans les amas de galaxies, on pouvait imaginer qu'il y avait un petit peu de matière qu'on ne voyait pas et qui allait faire le compte, autant dans l'univers, il fallait rajouter 80% de la masse et de l'énergie de l'univers, et donc ça c'était invisible, là il y avait un gros problème. Donc c'est à peu près ça, le démarrage c'est 1981, où en termes du Big Bang, pour garder le Big Bang, il a fallu imaginer qu'il y avait beaucoup plus d'autres choses que ce qu'on voyait.
Donc en gros, si je comprends bien, on sait qu'il y a de la matière, quelque chose quoi, qui tient les galaxies ensemble, pour reprendre le premier argument, mais qu'on ne voit pas du tout. Quoi.
Voilà, c'est pour ça qu'on pourrait parler soit de matière noire, si on pense que c'est de la matière, soit de masse manquante, si on pense que c'est quelque chose qui agit juste par la gravitation. Ce serait le terme le plus juste. Il nous manque de la masse.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça peut être, cette matière noire ? Comme je disais tout à l'heure, il y a au moins un auteur de science-fiction qui a imaginé que c'était des grandes planètes donc qu'on ne voit pas parce qu'elles ne brillent pas, c'est ça ? Donc des grosses planètes faites de matière noire. Alors dans son cas, elles sont pensantes, je pense qu'on peut éluder la question sur cette table ronde. Mais est-ce que ça peut être des planètes, la matière noire ?
Au début, on a pensé que c'était effectivement un peu ça, puisqu'on sait que nos télescopes ne peuvent pas tout voir. Il suffit qu'une étoile soit trop lointaine, même avec des gros télescopes, on ne la verra pas. Mais ça, finalement, c'était pas suffisant. On a vite fait le compte. Au sens de la galaxie et des amas de galaxies, ça peut encore marcher, mais au sens de tout l'univers, ça ne peut pas marcher. Donc on a toujours eu trop peu de candidats possibles pour mettre la matière qui nous manquait.
D'accord. Donc c'est pas des astres, quoi. Ça peut pas être des objets astrophysiques.
Il y a eu un programme important fin des années 2000 autour de la recherche de ce qu'on appelle des machos. Donc c'est de la matière noire massive, type planète, étoile. Et après 10-15 ans d'observation, la communauté n'a pas trouvé son compte. Donc on cherche en gros 5 fois plus de matière noire que de matière visible. Donc on cherche une quantité colossale de matière qu'on n'a pas encore pu observer. Donc il faut bien se dire que ce n'est pas du tout une aiguille dans une botte de foin en termes de quantité de matière présente. Donc du coup aujourd'hui les seules théories qui sont encore possibles, c'est les théories dans lesquelles justement cette matière est particulière, donc où elle est disséminée dans tout l'univers comme la matière visible mais sans être agglomérée sous la forme d'astres.
D'accord, donc tu as dit le mot, ce serait plutôt donc des particules élémentaires, c'est ça ?
Oui. Donc,
mais donc beaucoup, j'imagine.
On cherche beaucoup de particules élémentaires qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire et donc pour lesquelles on a énormément de difficultés à trouver un moyen d'observation suffisamment sensible pour l'observer.
Et alors là où ça se complique, je crois, c'est que bon, des particules élémentaires, on en connaît pas mal. Mais si j'ai bien compris, elles ne peuvent pas rendre compte de la quantité de matière noire qu'on observe au niveau astrophysique, c'est ça ? Il y a certaines de ces particules, moi je pense aux neutrinos, donc les neutrinos c'est des toutes petites particules, vous êtes traversés en ce moment par tout un tas de neutrinos, vous ne vous en rendez pas compte. Elles ont une petite masse, mais ils sont tellement nombreux que est-ce que ça pourrait pas être, la matière noire, ça pourrait pas être fait de neutrinos ou de quelque chose de similaire ?
Oui, un feu... Et c'était une des premières options, effectivement, de regarder les neutrinos. Donc, les physiciens, une fois exclus les planètes, ils se sont clairement... Ils ont regardé vers les particules. Ils ont, dans notre modèle standard, qui inclut toutes les particules qu'on connaît et les interactions entre ces particules, ils ont regardé un potentiel candidat, un candidat naturel, qui c'est les neutrinos, que c'est une particule qui, comme tu disais, il interagit très faiblement avec la matière, donc presque jamais. Nous, on a des milliards, des billions de neutrinos qui nous traversent, qui traversent l'univers sans rien faire du tout. Donc, ça, c'est clairement un bon candidat matière noire. Et en plus, il est neutre. Il est très, très abondant dans l'univers. Donc, effectivement, c'était un bon candidat. Il y a eu pas mal des expériences qu'ils ont cherché cette... qu'ils ont essayé de démontrer si cette neutrinule pouvait être un candidat en matière noire. Dans la réalité, celle qu'on sait maintenant, ces neutrinos ne peuvent pas justifier toute la masse manquante dans l'univers. Et surtout, on a des observations cosmologiques qui nous disent que le neutrino ne peut pas être la matière noire. Et c'est parce que le neutrino est très... On sait aujourd'hui qu'on ne connaît pas les masses de ces neutrinos. On sait qu'il y a trois types de neutrinos, mais on ne sait pas quelle est la masse. On a des contraintes, des limites qui nous disent que la masse totale de ces trois neutrinos ensemble est très, très petite, un milliardième, je crois, de celle du proton. Donc, on parle des choses très, très petites. Et ces neutrinos sont relativistiques au moment de la formation de l'univers, c'est-à-dire quand il y a le découplage entre les neutrinos et la matière. Et donc, ils ne permettraient pas la formation, vu qu'ils sont trop rapides, ils ne permettraient pas la formation des structures de l'univers, ça veut dire des galaxies, des amas de galaxies, des grosses amas. Donc, c'est une indication qu'on a de manière indirecte par rapport avec la cosmologie, que ces neutrinos, ils ne pourraient pas justifier la matière noire. D'autre part, on a inventé, pas inventé, mais on a des hypothèses de l'existence d'un autre neutrino qu'on appelle neutrino stérile.
Attends, parce que ça se complique. Hein. Je vous avais dit que ça allait être assez scientifique. Hein. Donc, il y a trois neutrinos, c'est ça? Si je comprends bien, leur masse est trop petite pour expliquer la matière noire. Et ils sont aussi trop diffus, c'est ça, ce que tu disais sur l'argument cosmologique, ils sont trop diffus dans l'univers pour justifier
l'agglomération de l'univers dans les phases de formation de l'univers. Donc,
Et donc il y aurait un quatrième neutrino, c'est ça que tu dis?
Oui, il y a eu pour d'autres raisons que d'autres anomalies dans les mesures de flux de neutrinos, qu'il est au-delà de la matière noire. À un certain moment, pour justifier cette anomalie, les physiciens, ils ont proposé l'existence d'un quatrième type de neutrino, qui est même plus bizarre que les autres, parce que lui, il n'interagit pas du tout, même pas par interaction faible. Mais seulement, il y a seulement un effet gravitationnel. Donc ça, c'est le neutrino stérile qu'on cherche, on construit des expériences à côté des réacteurs nucléaires, par exemple, et que ce neutrino, la seule chose qu'il peut faire pour se rendre visible à nos yeux, c'est de se transformer par oscillation, que c'est un autre mot bizarre qu'on utilise dans notre domaine. Donc, il pourrait se transformer en neutrino de type ordinaire. Donc, c'est un des trois types qu'on peut mesurer. Et donc, là, on pourrait le voir.
Et ça pourrait être la matière noire, alors, ou pas?
Oui, si c'est neutrino, il est très massif. Massif, ça veut dire qu'il est au moins 1000 fois plus massif que les neutrinos ordinaires.
D'accord, donc c'est... on tient peut-être déjà un début de candidat, là.
Oui, mais on n'a pas, pour le moment, on a des expériences qui montrent qu'on ne voit pas cette particule. Donc, il y a des expériences en cours, donc on verra, j'espère, dans les prochaines années, on va avoir une réponse. Mais c'est la seule hypothèse qui tient encore en route le neutrino comme particule.
D'accord, mais comme tu l'as dit, donc c'est une particule qui n'a jamais encore été observée, c'est ça? Donc, oui. Si je comprends bien, la matière noire, c'est pas des astres. Ouais, je vais prendre un autre micro. J'ai un problème de matière noire dans mon micro. Donc, ce sont pas des planètes ou des astres astrophysiques. Ce sont pas des particules qu'on connaît. Donc, t'as évoqué le mot de modèle standard. Donc, le modèle standard, c'est la somme, enfin, c'est la liste de toutes les particules qu'on a observées dans les accélérateurs et ailleurs. Et donc, la matière n'est ni contenue dans ce modèle standard. Elle ne peut pas être faite de particules qu'on connaît. Elle ne peut pas être faite d'agglomérats de particules qu'on connaît également, donc des astres ou des choses comme ça. Donc, c'est forcément autre chose, c'est ça? Enfin, peut-être le neutrino stérile, mais le neutrino stérile, on l'a pas encore.
C'est ça. Il faut bien comprendre la situation. On cherche la matière noire depuis, alors peut-être pas un siècle, mais presque un siècle. Et au fur et à mesure que l'homme cherche, quand il trouve pas, il mobilise énormément d'énergie pour trouver. Et donc on est dans un scénario inflationnaire sur les moyens de chercher cette matière noire. Donc aujourd'hui, il y a une unanimité au niveau scientifique sur le fait qu'il y a cette matière qui est présente, ce que je vous disais au début. En gros, c'est 5 fois plus de matière que la matière qu'on voit quand on regarde l'univers. Donc c'est colossal. Et on n'a pas de réponse observée capable de comprendre ce que c'est. Et donc on a des modèles qui couvrent un petit peu tous les ordres de grandeur de ce qui est possible d'imaginer dans un univers qui est à la limite entre la science et la science-fiction. On a besoin toujours de renouveler les scénarios possibles pour essayer d'investiguer quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore pu observer. Alors il y a ce premier volet qui est présent, donc il y a une activité théorique incroyable. On a encore aujourd'hui peut-être 200-300 modèles pour expliquer ce que pourrait être la matière noire. Et alors évidemment, ces modèles, au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup sont faux, mais ils sont renouvelés. Il y a de nouveaux acteurs qui proposent de nouveaux modèles. Il y a une vie scientifique autour de ce qui pourrait nous permettre de comprendre ce que c'est que cette matière noire dans l'univers. Et puis il y a l'autre aspect, c'est celui des expériences. Donc on construit des expériences qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, de plus en plus grandes, pour essayer justement d'améliorer notre capacité à l'observer. Donc on construit des expériences avec souvent de nouvelles technologies, des moutons à 5 pattes, de manière justement à essayer d'aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et justement repousser les limites tant qu'on n'a pas de signal positif. Donc on est dans la situation aujourd'hui où on n'arrête pas de repousser les limites, mais on n'a aucun signal positif qui remonte de ces expériences, qu'elles soient spatiales, sous terre. Hein, on a des expériences underground protégées par 2000 mètres de roche au-dessus de nous pour être complètement à l'abri de la radioactivité et des rayons cosmiques, ou sur accélérateur. Hein, on a aussi des énormes machines comme le collisionneur au LHC qui envisagent justement de créer de nouvelles particules plus massives, plus énergétiques qu'on n'a pas encore pu générer sur Terre. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal positif.
Alors, là, peut-être que... ouais, justement, Nathalie, donc c'est ça un peu un des buts du LHC, c'est de créer des particules qui pourraient être la matière noire.
Alors, entre autres, hein, parce que le LHC, il avait plein de buts de physique. Un, ça y est, c'est mission accomplie, c'était observer s'il existait le boson de Higgs. Je vous rassure, maintenant, depuis 2012, on le sait, il existe, on l'a observé, on est content. Mais c'est aussi une machine c'est la machine qui monte à la plus haute énergie sur Terre. Donc, ça nous permet d'explorer des domaines de masse, hein, masse et énergie, E égale MC2, c'est la même chose. Donc, des domaines de masse de particules très élevés. Et alors, juste pour... moi, je ne suis pas spécialiste de la matière noire, mais je connais bien ce qu'on fait au LHC. Donc, juste pour vous mettre le contexte dans lequel on est, Dominique a parlé d'une foule de modèles, de 200-300 modèles. Moi, quand je demande à mes collègues, ils me parlent d'une jungle de modèles qui proposent plein de choses. Alors, les machos dont on en a parlé, ils ont été écartés. Mais il y a quelque chose qui a le vent en poupe et qui traite. Donc, c'est quelque chose qui interagit faiblement. Ça fait « weakly interacting ». C'est massif parce qu'on cherche de la masse manquante, donc massive, et ce serait des particules, pourquoi pas. Donc particules, ça fait WIMP. Quand je traduis en français, ça fait mauviette. Donc on a écarté les machos. Pour l'instant, on cherche des mauviettes. Et c'est ce qu'on fait pas mal au LHC, chercher des mauviettes. La mauviette, vous l'aurez compris, est très dure à détecter. Donc au LHC, quand on cherche les mauviettes, on cherche rien. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne cherche rien. On cherche rien dans nos détecteurs. Alors le problème qu'on a, c'est qu'évidemment faire la différence entre « il ne s'est rien passé dans mon détecteur » et « il y a du rien dans mon détecteur », c'est pas facile. Donc parmi tous les modèles qui sont proposés, on cherche des modèles qui nous donneraient des signaux très faciles, ou du moins très caractéristiques dans nos détecteurs, en particulier beaucoup de rien et un quelque chose. Alors, dans les collisions, on peut faire des bilans d'énergie. Je vais aller rapidement là-dessus, mais on peut faire des bilans d'énergie. Et donc, on sait combien on a mis d'énergie dedans. Donc, si on voit quelque chose, on sait la quantité de rien qui contrebalance le quelque chose. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on va réussir à signer les mauviettes si jamais on les voit. Alors, les quelque chose, ça peut être des choses exotiques qui ne sont pas dans le modèle standard dont on a parlé. Ça peut être des choses très connues, comme par exemple des TOP ou des bosons Z ou W. Et il y a une autre façon de chercher les mauviettes qui est très satisfaisante, c'est en utilisant le fameux boson de Higgs qu'on a découvert en 2012, parce que le boson de Higgs, sa caractéristique, c'est de se désintégrer en paires de machins massifs. D'accord ? Et la caractéristique de la mauviette, quelles que soient par ailleurs ses caractéristiques, c'est qu'elle est massive. Donc, il y a une chance que le boson de Higgs se désintègre en paires de mauviettes. Et la production, j'adore dire ça, et la production du boson de Higgs, elle, elle est facile, un peu de guillemets, mais pas si dure que ça, à caractériser et à reconnaître dans les détecteurs. Et donc, ce qu'on verrait, c'est le boson de Higgs se désintégrer en tout un tas de trucs, dont du rien. Et on pourrait quantifier ce rien, et ça nous donnerait au moins une caractéristique de la mauviette, qui est la façon dont elle interagit avec le boson de Higgs. Donc on a des façons de chercher. Comme le disait Dominique récemment, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a fait que mettre des limites assez élevées. Hein. La particule la plus élémentaire, pardon, la particule élémentaire la plus massive qu'on connaisse, c'est un quark qui s'appelle le quark top. Pour vous donner une idée, sa masse, c'est 175 gigaélectronvolts, peu importe l'unité. C'est un truc très massif par rapport aux neutrinos qui seraient peut-être quelque chose dans le millième d'électronvolts, donc on voit c'est vraiment massif. Et pour l'instant, les mauviettes, on a mis des limites, elles ne peuvent pas être plus légères que, on va dire, 800 gigaélectronvolts, donc quelque chose comme 4 fois la masse de la particule la plus massive connue. Donc pour l'instant, on ne sait faire que ça, c'est dire ça ne peut pas être plus léger que. On ne sait toujours pas ce que c'est, et si c'est quelque chose, on sait mettre des caractéristiques sur sa masse, mais c'est tout.
Donc si je comprends bien, vous n'avez rien vu, mais ce n'est pas rien, c'est ça ?
Non, justement, on n'a rien vu, voilà, mais ce n'est pas le rien qu'on cherche. Ce
n'est pas le rien
exactement.
Que vous cherchez. Non, mais peut-être pour... Ouais, donc c'est ça, donc vous il y a des chances que vous créez, des particules de matière noire, on va dire, au LHC, mais vous ne les voyez pas. De la même façon qu'on ne les voit pas dans l'univers, vous ne les verriez pas, vous seriez juste capable de dire, parce que c'est ce rien dont tu parlais, voilà. Elles étaient là, quoi.
Au LHC, l'intérêt, c'est que comme on sait quelle énergie on injecte dans le processus, on sait ce qu'on doit récupérer, et donc c'est en creux qu'on va les voir. Il va nous manquer de l'énergie, donc en creux, on saura qu'il y a quelque chose d'invisible qui a embarqué de l'énergie.
Elle me paraît bien absente, cette matière noire.
Juste pour compléter, ce qui est important aussi, c'est de parler du côté un peu ancestral de cette matière noire. C'est-à-dire qu'on est confronté au niveau cosmologique, au fait qu'aujourd'hui, on la comprend comme une relique de l'univers primordial. Donc, on est confronté à de la matière qui ne s'est pas désintégrée, qui n'a pas disparu depuis qu'elle a été créée. Donc, on est confronté à quelque chose qui échappe à l'homme depuis qu'il existe, mais qui a été généré par la nature juste après les premiers instants du Big Bang. Donc, on est vraiment confronté à cette double... ce double paradoxe, c'est quelque chose qui est colossal en termes de quantité, c'est quelque chose qui est ancestral, donc ça existe peut-être depuis que la nature existe, et quand on se met sur Terre avec des expériences ou dans l'espace pour essayer de l'observer, pour l'instant on n'arrive pas à la voir, malgré tous les efforts qu'on fait comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas pour autant qu'on progresse pas. Hein, donc il faut bien quand même qu'on dise les choses aussi de façon positive. On a eu ces 10 dernières années, on met de nouvelles technologies, essentiellement des technologies qui mettent en avant des liquides nobles, de gaz nobles, donc des détecteurs qui sont froids. On arrive à gagner typiquement tous les 2 ans un facteur 10 sur la magnitude d'observation. Donc c'est un petit peu comme si tous les 2 ans on construisait un télescope qui était 10 fois plus gros pour observer des étoiles qui brillent 10 fois moins. Pour qu'on ait une bonne analogie, et leur pourrait effectivement arriver à observer cette matière noire directement, donc sans la créer, hein, mais la matière noire relique de l'univers primordial, qui est présente partout autour de nous ici, et partout dans notre galaxie, dans les galaxies de l'univers, on se met sous Terre. Donc on doit s'abriter de tout ce que la nature génère comme particules élémentaires de façon spontanée, donc on doit s'abriter de tous les rayons cosmiques, on doit s'abriter de toute la radioactivité naturelle qui est présente dans le corps humain, dans la matière ordinaire, et on a des programmes donc, qui sont extrêmement purs en termes de matière non radioactive et en termes de sensibilité, justement pour essayer de descendre le plus bas possible vers ce qu'on est encore capable de proposer pour toujours aller plus loin et avoir un signal positif. On n'est pas du tout arrivé aux limites. C'est ça qui est important à dire. Je pense que dans une génération, on sera encore plus savant qu'aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que cette matière noire. Et on a plein de choses à comprendre et à observer en essayant de la détecter. Et le jour où on va l'observer, il faut s'attendre vraiment à un bouleversement de notre compréhension des lois de l'univers.
Donc, Donc Marie-Angela et toi, vous êtes tous les deux dans deux expériences, je ne sais pas si elles sont concurrentes ou pas, mais enfin deux projets différents qui cherchaient la matière noire. Tu as commencé un peu à en parler, comment ça se passe? Donc c'est des expériences qui sont dans des cavernes souterraines, dans les montagnes.
Voilà, donc d'anciennes mines désaffectées ou des tunnels qui juxtaposent des tunnels routiers, donc qui bénéficient du bouclier apporté par la montagne pour arrêter tout le rayonnement cosmique qui est généré principalement par le soleil. Et puis sous terre, donc dans ces grands, un petit peu comme ici, des grands halls, là on construit des expériences qui sont à l'abri de ce rayonnement cosmique et on sélectionne les aciers, on sélectionne l'ensemble du matériel qu'on utilise pour construire ces détecteurs qui sont uniques, de manière à ce qu'ils contiennent le moins de quantité de traces de radioactivité naturelle. Donc du coup on mesure la quantité d'uranium présente dans l'acier, présente dans nos électrodes.
Ça c'est pour pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs.
De manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit qui mimique la possible interaction d'une matière noire avec la matière ordinaire qu'on utilise pour l'exposition. Et puis, au final, après avoir observé pendant un an, deux ans, l'univers, on a quand même un bruit de fond résiduel. C'est pas possible de construire une expérience sans radioactivité naturelle. Donc, du coup, on est limité en termes de sensibilité à une certaine magnitude d'observation qui fait que l'étape qui suit, c'est un détecteur encore plus grand, un détecteur encore plus sensible, encore plus radio pur, pour justement avoir une limite d'observation encore meilleure. Donc du coup, c'est une compète énorme. C'est-à-dire que sur Terre, il y a tous les pays qui essayent de chercher la matière noire. C'est des dispositifs expérimentaux qui sont quand même nettement moins volumineux que le LHC. Donc du coup, on peut en construire plusieurs en même temps et on peut rivaliser d'ingéniosité pour essayer d'être plus rapide que les autres. Voilà. Donc du coup, il y a des expériences, il y a de la compétition. Et bon, c'est vrai que là, on est souriant, etc., mais bon, on n'est pas toujours
posé. D'habitude, vous vous foutez sur la gueule si
je... Non, je pense que c'est un peu exagéré de parler de compétition. On utilise aussi des techniques différentes, donc on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas le même... on ne regarde pas nécessairement les mêmes candidats de matière noire. Donc je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de compétition, et surtout parce que, comme toujours, le premier qui arrive gagne le prix. Mais c'est...
Rien vaut mieux que deux, tu l'auras ton prix Nobel, quoi, c'est ça?
Non, je ne pense pas, mais bon, okay, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que beaucoup d'expériences, ils sont aussi dans des conditions différentes, parce qu'on peut aussi admettre déjà que certains matériaux sont plus sensibles d'autres, à certains types d'interactions. Et il y a aussi le fait qu'on ne peut pas exclure l'erreur humaine. Ça on ne peut pas jamais l'exclure. Donc, il y a aussi des collaborations différentes qui travaillent. Donc, oui, je pense que c'est la compète, mais on ne cherche pas de situer chacun.
D'accord. Voilà. C'est une saine émulation, c'est ça. Et donc, peut-être pour résumer pour tout le monde, donc en gros, vous mettez vos détecteurs au fond des montagnes, dans des mines, et vous attendez qu'un candidat de matière noire passe par là et que vous le détectiez. Je schématise beaucoup, mais c'est ça le cœur de la démarche, c'est ça. Hein.
Voilà, alors, après ça, il faut prendre un peu de contexte. Donc on est, alors par exemple, dans la collaboration Xénon, on est 170 chercheurs à partager nos moyens. Donc on investit dans une partie de l'expérience, on construit une expérience commune, on exploite l'expérience ensemble, on réfléchit à l'expérience qui suit ensemble, et on est donc amené à témoigner de résultats communs. Donc on a une communauté internationale avec tous les pays qui, à un moment donné, souhaitent participer à cet effort pour mieux comprendre l'univers, qui vont se mobiliser pour mobiliser des moyens qui nous permettent de proposer ces expériences et d'aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un contexte de recherche qui est complètement financé par des organismes publics et qui répond à un besoin de sciences fondamentales pour comprendre vraiment la nature qui nous entoure, indépendamment de toute cette compétition qui par ailleurs est très importante, puisqu'on a besoin systématiquement de reproduire les résultats, on a besoin systématiquement d'être en mesure de dire que ce qu'on observe à un endroit, c'est la même chose que ce qu'on observe autre part, et que la matière noire qui est présente en Italie, c'est la même que celle qui est présente à Modane, aux États-Unis, en Chine, au Japon, qu'on n'a pas de différence au niveau de cette propriété de la nature.
Alors, en ce qui concerne Jean-Marc et moi, c'est un petit peu différent parce qu'on est sur des instruments qui sont plus multifonctions, qui sont moins tournés vers un seul but de physique. Donc nous, on n'est pas 170. Par exemple, dans Atlas, hein, on est je ne sais plus combien, d'ailleurs, ça s'agrandit tout le temps. Donc on doit être autour entre 3 et 5 000 physiciens. Mais par contre, le nombre de recherches de physique différentes qui s'y font, il y a une toute petite partie de la communauté qui cherche la matière noire. Et pour Jean-Marc, avec des instruments qui regardent plutôt le ciel et le cosmos, c'est pareil, il y a plusieurs buts de physique, dont la matière noire, n'est-ce pas ?
Oui, exactement. En fait, pour les astrophysiciens, je crois qu'on est assez différents des physiciens des particules. C'est-à-dire, on continue à penser que c'est une hypothèse, la matière noire. Je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'à l'échelle des galaxies, à l'échelle même des amas de galaxies, on sait qu'on ne voit pas tout. Et il y a matière à compléter notre bilan de la matière, par exemple avec de l'hydrogène moléculaire dans les galaxies qu'on n'arrive pas à détecter. Il y a le gaz chaud dans les amas qu'on vient juste de détecter avec les télescopes Ariane X. Donc le bilan au niveau de l'astrophysique n'est pas dramatique. C'est quand on passe au niveau de la cosmologie, au niveau de l'univers, que là, la quantité de matière dont on a besoin est incommensurable d'une certaine façon. Et donc c'est là qu'on se dit quand même, enfin, on va se l'avouer tous, on a quand même été beaucoup déçus. C'est-à-dire le LHC, on imaginait qu'il pouvait nous fournir quand même une ou deux candidats de ces WIMS dont on parlait. De la même façon, les détecteurs, ça fait quand même 40 ans que ça tourne au fond des montagnes. Alors maintenant, ils grossissent. Mais quand même, on est quand même un peu déçus. Hein, voilà, il faut se le dire. Donc ça veut dire qu'on commence à se dire que est-ce qu'on est dans la bonne voie? Mais ça, il faut être honnête. Même, entre nous, on en discute. Hein, je veux dire, c'est vrai que c'est que peut-être la matière noire n'est pas vraiment la bonne piste.
Donc, c'est vrai, comme tu le dis, pour l'instant, tous les trois, vous n'avez pas découvert de matière noire. Vous avez repoussé les limites, on a bien compris. Il faut continuer, on a bien compris. Mais néanmoins, vous n'avez encore rien trouvé. Alors, est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs à la matière noire pour expliquer cette masse manquante dans l'univers là?
Alors oui, il y en a. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure au début. Hein, c'est-à-dire qu'on voit tout à fait bien que c'est une histoire entre la matière et la gravitation. Soit on ne voit pas la matière, soit la gravitation la calcule mal. Alors, du point de vue de la gravitation, on sait que c'est compliqué, parce qu'on a la théorie de la relativité d'Einstein, mais néanmoins, il y a une hypothèse qui a été d'ailleurs donnée 2 ans après l'inflation, en 1983, par un physicien israélien qui s'appelle Mordechai Milgrom, et qui a astucieusement considéré qu'en rajoutant une petite constante à la loi de la gravitation, la loi en 1 sur R2, là on parle de celle de Newton, et en faisant en sorte qu'elle ne tombe pas aussi abruptement, c'est-à-dire vous savez que ça varie l'attraction entre deux corps comme l'inverse du carré de la distance. Mais là il a dit, ben non, au bout d'un certain temps, quand on est assez loin, ça variera juste en l'inverse de la distance. Et ça change tout. Parce qu'au début, à l'intérieur d'une galaxie, ça n'avait pas beaucoup de différence, mais quand on s'écarte, et c'est là qu'est la différence avec les vitesses, eh bien l'attraction gravitationnelle devient plus importante qu'elle n'est calculée par la loi Newton classique. Et donc cette hypothèse a paru farfelue quand il l'a donnée, sauf que quand il l'a appliquée à des tas de choses de différentes échelles, des petites galaxies par exemple, des galaxies naines, des grosses galaxies comme la nôtre, même des groupes de galaxies, ça marchait très bien. Et donc ça continue à marcher très bien. Lui, ce qu'il dit, c'est que c'est bizarre, parce que la matière noire est toujours en bonne proportion, dans la même proportion avec la matière ordinaire. Et ça, on ne le comprend pas si c'est quelque chose de complètement différent. Il faut bien qu'il y ait un lien entre les deux. Et il continue à pousser cette hypothèse. Et la seule chose qui lui a valu un peu des critiques, c'est qu'au niveau des amas de galaxies, ça marche un petit peu moins bien. Et donc, en fait, effectivement, il est en train de regarder ce qu'il pourrait faire. Mais l'hypothèse de changer la loi de gravitation, vous savez que c'est historiquement une des façons dont on s'est sorti de la matière noire aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un astronome français qui s'appelait Urbain Le Verrier, très célèbre, parce qu'en 1856, je crois, il a simplement découvert Neptune en observant les irrégularités de la trajectoire d'Uranus. Donc il a fait l'hypothèse, il y a une planète qu'on ne voit pas. À l'époque, c'était de la matière noire, hein, finalement. Et dans le mois qui a suivi, il envoie ses données en Allemagne, et dans le mois qui a suivi, on trouve Neptune. Donc c'était génial, mais Le Verrier, après, il s'est un peu enthousiasmé. Et il a remarqué, et d'autres avaient remarqué avant lui, que Mercure aussi avait des anomalies dans sa trajectoire, dans son orbite. Ni une ni deux, il dit, ben écoutez, c'est simple, il y a une planète entre Mercure et le Soleil, et je l'appelle Vulcain. Donc il fait ça en 1860, et tout le monde se met à chercher Vulcain. Alors ça dure 10 ans, 15 ans, puis finalement il y a une éclipse de Soleil dans laquelle on aurait dû voir la planète passer devant, et personne ne voit la planète Vulcain. Conséquence naturelle, on abandonne l'hypothèse Vulcain. Et de fait, effectivement, il a fallu attendre Einstein en 1915, parce que c'est le changement de la gravitation qui a amené l'explication de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Ben, on peut dire, on est peut-être un petit peu dans cette situation-là. C'est-à-dire, on ne veut pas abandonner notre Vulcain de matière noire, mais peut-être il faut se tourner vers la gravitation et réinventer un petit peu une modification comme l'a fait Milgrom. Enfin, c'est ça les débats, je pense, honnêtement, à l'heure actuelle, parce que plus le temps passe, on est 40 ans après le début de notre hypothèse de matière noire. Si on n'a rien trouvé avec tous les moyens qu'on a, c'est pas bon signe, quoi.
Peut-être, là, il y a une différence, je vois une différence, mais peut-être...
Non, en fait, moi j'ai du coup une question de physicienne des particules. On ne peut pas imaginer un peu des deux ? c'est-à-dire de la matière qu'on n'aurait pas vue, et puis en même temps une modification de la gravité. La gravité qui serait compatible avec, par exemple, les amas de galaxies et les plus grandes structures à plus grandes échelles.
C'est ce qui se passe d'ailleurs. Pour Milgrom, il est obligé de rajouter un peu de matière non connue et qui ne rentrerait pas dans le bilan. C'est vrai, je pense que de toute façon, les problèmes ne sont pas en dichotomie comme ça. La plupart du temps, il faut refaire ces hypothèses et voir comment on peut amalgamer les différents ingrédients pour résoudre le problème. Mais j'insiste quand même sur là-dessus, c'est que on s'enferme dans une logique quand même qui est liée à notre aussi hypothèse cosmologique sur l'évolution de l'univers. Il se trouve que le modèle actuel s'appelle le Big Bang, mais c'est lui qui a besoin de sa matière noire. Si on imagine une évolution d'un univers différente, peut-être on n'aura plus du tout besoin de matière noire. Et il en a besoin de façon dramatique. C'est-à-dire, si aujourd'hui on enlève la matière noire, le Big Bang n'existe plus. Parce que pour pouvoir former les galaxies, on a besoin de cette matière. Avec la matière qu'on voit, on ne formera jamais les galaxies dans le temps qui est imparti par le Big Bang. Donc c'est un argument supplémentaire qui fait qu'on insiste sur la matière noire. Mais il y a aussi des hypothèses qu'on peut se dire, l'évolution actuelle de l'univers n'est peut-être pas si bien décrite par ce modèle auquel on le fait toujours référence, qui est celui du Big Bang.
Peut-être la différence que je voyais avec Le Verrier, c'est qu'il était capable de dire où était exactement la matière noire, Vulcain. Là, le problème, c'est qu'on sait qu'il y a de la matière noire, mais on ne connaît pas sa masse, c'est ça, ça...
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle là de programmes scientifiques majeurs, multiples. L'année dernière, par exemple, on a observé pour la première fois une galaxie sans matière noire. Donc du coup, il y a des rebondissements qui progressivement font que à un moment donné, on va privilégier un modèle type monde où on va penser qu'en modifiant un peu la gravité...
C'est la théorie de Milgrom, ça veut dire Modified Newtonian Dynamics.
Et d'autres, par contre, on va privilégier la particule, la matière noire, dans un contexte où beaucoup d'expériences essayent de l'observer. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui reste mystérieux. C'est un peu comme... peut-être la radioactivité à la fin du 19e, il y a quelque chose qui échappe à l'homme de façon évidente, et il y a, au niveau de ce qu'on est capable d'imaginer en tant qu'expert, soit expert au niveau théorique, astrophysique, expérimental, on n'a pas pu encore inventer quelque chose qui était satisfaisant. Donc à chaque fois que quelque chose est proposé, il y a énormément de controverses dans notre communauté. Donc on est extrêmement libre dans nos échanges et on discute à chaque fois avec une argumentation qui est extrêmement scientifique. Donc on a très peu de préjugés. Et du coup, c'est vrai que ça génère aussi beaucoup d'efforts. Je pense qu'il ne faut pas perdre courage. C'est aussi la vertu des hommes, c'est que on sait que quelque chose d'incroyable est à comprendre qu'on n'a pas encore compris, et on fait tout ce qu'on peut dans tous nos pays sur Terre pour justement rester dynamique et intéressé par ce sujet.
Alors,
on manque de science-fiction. C'est-à-dire que pour le coup, on revient un peu aux utopiales. C'est par définition, c'est un domaine dans lequel on peut inventer quelque chose de nouveau sans être vraiment expert. Peut-être que les novices, peut-être qu'un œil complètement nouveau pourrait générer quelque chose de fantastique qu'on n'imagine pas quand on est dans ce domaine et qu'on comprend tout ce que ça sous-entend.
Oui, mais moi, je pense que quand même, il y a une différence, et malheureusement, tout le monde le sent un petit peu, entre science et science-fiction. C'est-à-dire, la science nous impose de partir de ce qu'on le connaît pour prédire des choses qu'on ne connaît pas. Là, on est sur un chemin qui commence à sentir effectivement plus la science-fiction. Si matière noire, on ne sait pas où elle est, de quoi elle est faite, comment elle agit, etc., c'est compliqué. C'est compliqué. Alors après, on va peut-être parler de l'énergie noire, parce qu'il y a un autre composante. C'est pour ça que ça fait un petit peu bizarre maintenant d'imaginer qu'on ne connaît rien de 95% de l'univers et qu'on continue à faire un modèle d'univers. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on est peut-être dans la science-fiction parce qu'on a poussé trop loin. Moi, je pense que la méthode scientifique, elle nous impose de faire comme Le Verrier. Je prédis qu'il y a Vulcain et vous allez chercher Vulcain là. Bon, là, si on dit je prédis, puis voilà, c'est tout. J'imagine que parce que dans mes équations, ça marche bien. Là, on est déjà un peu plus éloigné de la science que nous avons appris de nos grands précédents.
Alors, le problème, en fait, c'est la jungle des modèles dont on parlait tout à l'heure, des 200-300 modèles. Donc, nous, par exemple, au LHC, si on devait tous les suivre, en plus, c'est des modèles qui ont plein d'espaces, des phases libres. Alors, on est obligé de dire, on va prendre le modèle numéro I. Et puis, dans ce modèle numéro I, on va faire des hypothèses sur les particules qui n'existent pas encore. Et puis, dans le cadre de ces hypothèses, on va faire une recherche. Ah, on voit rien. Donc après, on va prendre d'autres hypothèses. C'est inextricable et on en a pour des siècles. Et donc, le fait qu'il y ait cette jungle de modèles et qu'on néanmoins, on essaye de suivre la méthode scientifique, fait qu'il y a beaucoup de travaux théoriques qui sont faits pour fabriquer des grandes familles de modèles qui prédisent ce qu'on devrait voir, le rien, mais sous quelle forme et dans quelle quantité, dans nos détecteurs. Et là-dessus, il y a vachement de progrès qui sont faits, hein, de progrès théoriques qui sont faits, pour faire ces grandes familles de modèles et nous simplifier la tâche en disant, voilà, dans cette grande famille de modèles, alors vous devriez ne pas observer tant de quantités de rien, voilà, j'allais le dire, etc., etc. Donc, la méthode scientifique, elle est compliquée du fait qu'on n'a aucun indice dans quelle direction partir et qu'il y a foison de modèles à explorer. Mais du coup, il y a du travail qui est fait là aussi dans ce sens, hein, de simplifier un peu la tâche des expérimentateurs.
Pour continuer sur le sujet de la science-fiction, en effet, il y a même des modèles. Donc, juste pour donner l'ordre de grandeur, il y a des hypothèses des particules qui pourraient faire la matière noire, qui ont des masses très petites ou très grandes sur une échelle des 90 ordres de grandeur, ça veut dire 10 puissance 90. C'est juste énorme. Et certains de ces modèles...
Ça veut dire que ça peut faire 1 ou 1 avec 89 zéros derrière.
D'accord, c'est ça, merci. Et donc, et certains de ces modèles, on a vu dans certaines conférences où il y avait les théoriciens qui expliquaient les modèles, et à la question des physiciens des expérimentaux, comme dans notre cas, oui, mais est-ce que je peux les voir? La réponse est non. Il n'y a aucune manière, parce que c'est des fluctuations quantiques ou c'est des trous noirs primordiaux qu'on n'a pas la moyenne de le détecter. Donc, ça met clairement le physicien dans des conditions de... OK, ces modèles, pour moi, c'est, ils sont ça n'existe pas.
Ouais, ils ne sont pas vérifiables et falsifiables. Quoi.
À mon sens, ce n'est pas un modèle scientifique à ce moment-là. Parce que tout modèle c'est scientifique se doit d'être réfutable. C'est simplement la définition. Hein. Donc là, on dit autre chose.
Et le mot a été jeté, peut-être vous pouvez nous dire deux mots en gros ce que c'est que l'énergie noire alors, parce que donc il y a la matière noire, tu nous as dit qu'il y avait 4 portions de matière noire pour une portion de matière normale, si je ne me trompe pas. Et l'énergie noire, c'est quoi alors, rapidement, avant de donner le...
Peut-être un cosmologique.
Écoutez, l'énergie noire, alors c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une conséquence de la matière noire, bizarrement, dans les hypothèses, la façon dont on voit l'univers. Quand on a rajouté cette matière noire, évidemment, cette matière noire a une force de gravitation énorme. Donc, elle tendait complètement à faire effondrer l'univers sur lui-même. On s'est aperçu même que l'âge de l'univers calculé avec cette matière noire et avec la constante d'expansion que nous mesurons, que nous appelons la constante Hubble, nous donnait un âge de l'univers autour de 8 milliards d'années, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des étoiles qui ont 10 milliards d'années d'existence ou 12 milliards d'années. Donc, on s'est dit, déjà avant même que l'observation cruciale ait été faite, on a besoin de quelque chose pour nous refaire... Enfin, remettre l'univers en expansion plus forte, c'est-à-dire une force répulsive, une force qui serait opposée à la gravitation. Et donc, il s'est trouvé que cette hypothèse avait été faite déjà par Einstein, il avait supprimé ce coefficient de ces équations, mais finalement, on commençait à le remettre, et puis tout d'un coup, en 1998, à l'aide d'explosions d'étoiles qu'on voit très très loin, on s'est aperçu qu'effectivement, enfin, je dis effectivement, ça n'a pas été encore complètement confirmé, parce qu'il faut beaucoup plus d'observations qui en a été publiées, l'accélération, l'univers est en train d'accélérer dans son expansion. Et donc, pour expliquer ça à l'heure actuelle, comme on n'a que de la matière, qui est une matière qui tend à ralentir l'expansion, ben, il faut mettre une force, qui est donc une énergie sombre, qui a une particularité que personne n'a jamais vue dans la physique. C'est une force qui croît avec la distance. Ça, on sait pas faire en physique pour l'instant, on n'a jamais pu faire ça, quoi. C'est une force qui croît plus vous éloignez les choses les unes des autres. Et en proportion de la distance. C'est pourtant l'hypothèse qu'on a faite, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre, et quand on a fait les calculs, on s'aperçoit que cette énergie sombre fait 75% de l'énergie totale de l'univers. Si vous ajoutez à ça les 70% plus les 25% de matière noire, il vous reste 5% qui est plus ou moins connu, c'est la matière qu'on observe. Et là-dessus, on fait un modèle d'univers qu'on appelle effectivement le modèle du Big Bang. Donc, moi, très honnêtement, je me disais, imaginez quelqu'un qui veut... on a un alphabet de 26 lettres. Vous prenez la proportion 5%, ça fait 2 lettres. Et puis, vous demandez à quelqu'un d'écrire un poème de Victor Hugo ou un texte de Victor Hugo avec 2 lettres. Bon, ben, il ne pourra pas. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire quand même dans la cosmologie. C'est pour ça qu'en termes, en tant qu'astrophysicien pur, observateur, je dis, on va trop loin, parce que C'est pas possible qu'on puisse construire un modèle d'univers sans connaître du tout. On connaît même pas comment ça se comporte réellement. Hein. C'est-à-dire que donc on, voilà. Bon, alors, mais maintenant sur le papier ça marche, les équations ça marche. Je vous rassure tout de suite, ça marche.
Oui, non, je veux pas la ramener avec mes particules, hein, mais moi il me semble que l'interaction forte, elle fait ça. C'est-à-dire elle est de plus en plus forte plus tu éloignes les quarks les uns des autres. Donc ça existe, mais alors à des échelles incommensurables par rapport à l'univers, on est d'accord. Et donc des forces qui sont...
Peut-être que l'univers, c'est juste un proton. Alors,
l'univers est un énorme proton.
Non, c'est quelque chose qui est pas du tout scientifique, mais c'est vrai on essaie toujours de donner une taille à l'univers. On s'aperçoit, alors que plus le temps passe, plus sa taille est grande, et donc que plus il y a d'énergie noire. Oui, donc du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être au début quelque chose qui est plus général que ça, c'est que l'homme a du mal à imaginer que l'univers n'aurait pas une taille. Voilà. Et donc, on est vraiment confronté dans l'infini. Hein, quand on parle du vide, quand on parle de la taille de l'univers, on est devant quelque chose qui est très difficile à imaginer, à conceptualiser. On est devant quelque chose pour lequel on a besoin de réinventer comment on peut penser. Voilà. Et donc, peut-être qu'avec la matière noire aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se dire, il faut penser différemment, tout en restant très conscient du fait qu'on n'a pas encore construit tout ce que l'homme pouvait faire pour aller jusqu'où il est capable d'aller dans le modèle qui est proposé. Il y a une dynamique sur Terre énorme au niveau scientifique pour répondre à cette question. Et il ne faut surtout pas négliger la possibilité, au contraire, que cette dynamique soit à la fin positive. La nature est gigantesque et a priori essayer à un moment donné d'aller chercher ce qu'on n'a pas encore pu voir, c'est être confronté à ces ordres de grandeur qui sont souvent violents, inhumains, très difficilement imaginables.
Bien, je pense que vous avez tout compris, non ? En particulier, si vous avez compris qu'on ne comprenait pas grand-chose ? Non, je caricature, mais si je résume, on a ce que vous avez dit. Clairement, on a observé quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Il y a plusieurs candidats dont la matière noire il y a au moins deux hypothèses qui ont été données. Cher public, est-ce que vous avez des questions ? Il y a d'ailleurs des microphones qui
Bonjour.
Peuvent tourner.
Essayez.
Hop, 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 hop.
Tout au front.
Bonjour.
Il y a quelqu'un qui a un micro au fond là-bas. Allez-y.
Une petite question. Vous avez mis en avant l'hypothèse que finalement c'est peut-être le modèle monde qui pourrait apporter une pierre à l'édifice en prenant en compte l'interaction gravitationnelle qui ne serait pas exactement juste. Est-ce que dans ce cas-là, au lieu de chercher depuis 40 ans la matière noire, il ne faudrait pas éventuellement considérer que les autres interactions pourraient être légèrement différentes et donc que les observations qu'on a de l'univers au niveau donc astrophysique ne seraient pas exactement justes non plus?
Alors pour l'histoire de tester, malheureusement, effectivement, cette échelle à partir de laquelle la gravitation changerait de forme, elle est très très basse en termes de force de gravitation. On n'a aucun moyen de le reproduire en laboratoire, malheureusement. Donc on est obligé de prendre les objets astrophysiques les uns après les autres, comme je l'ai cité, les amas, les galaxies, etc., pour voir effectivement si ça pourrait suivre cette nouvelle loi. Maintenant, pour les lois physiques en général, peut-être que Nathalie peut dire... Si on devait changer des lois, peut-être effectivement qu'il y a certaines interactions qu'il faudrait revoir. Ce qu'on peut dire, c'est que le modèle standard de la cosmologie n'est pas complet. On l'a vu, puisque 95% nous manque. Mais le modèle standard des particules n'est pas complet non plus. Et ça, on le sait déjà, et donc ça ouvre d'autres horizons.
Alors, il n'est pas complet, mais tel qu'il est aujourd'hui, il est extraordinairement cohérent. Il est testé, retesté et tiré de toutes parts. Pour justement essayer de le mettre en défaut et on n'y arrive pas, si on devait envisager de modifier une des trois interactions fondamentales qui sont présentes dans le modèle standard des particules, interaction forte, faible et électromagnétique, il faudrait le faire à des échelles que pour l'instant on n'a pas atteint par manque d'énergie, on fait ce qu'on peut avec le LHC, mais en tout cas pour l'instant il tient très fort la route. Je pense qu'on peut. Enfin, je ne sais pas, ce serait plus confortable pour moi, physicienne des particules, qui aime beaucoup mon modèle standard, d'imaginer quelque chose au-delà du modèle standard. Une nouvelle physique différente, un changement de paradigme, une particule qu'on n'a pas pris encore en compte dedans, j'en sais rien, une nouvelle force, puisqu'on est dans un salon de science-fiction, n'importe quoi. Mais quoi qu'on envisage, et je rejoins Dominique là-dessus, évidemment, il faut aller au fond des choses, c'est-à-dire il faut encore aller au fond du modèle cosmologique qui est incomplet, il faut, faut aller tirailler tout ce qu'on connaît le plus possible, mais après, faut se laisser la possibilité d'envisager n'importe quoi, autre chose, et donc un changement de paradigme, mais ça ne devra pas remettre en cause ce qui marche très bien aujourd'hui. Oui. C'est pas parce qu'Einstein a inventé la relativité générale, qui est une merveille, que Newton, dans des certaines conditions, à savoir, par exemple, ici, là, tout de suite, si je lâche un truc, ça va tomber selon Newton. Donc, il faut faire attention, et je crois que c'est le défaut de Monde, justement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il remette en cause des choses qui marchent. Donc, c'est la difficulté.
Oui. Mais il espère que ça va s'inscrire. D'ailleurs, il y a une version relativiste, une version adaptée à la relativité qui a été faite de sa loi. Hein. Donc, il y a eu des tentatives comme ça. Mais quand tu disais que le modèle standard marche bien, à ma connaissance, normalement, le neutrino masse nul. Oui. Dans le modèle standard.
Oui, c'est ça. C'est, on a des indications que le modèle standard n'est pas complet. Non, mais il est incomplet.
C'est-à-dire, il ne rend pas compte de tout l'univers. La preuve,
je
ne rend pas compte de la matière noire.
Je connais bien ce débat, si on les laisse, ils sont partis pour longtemps.
Non, on va s'arrêter vite. Non, mais effectivement, il n'y a pas la matière noire dedans. Et
oui, qu'il
y ait des neutrinos de masse nulle dedans, ça ne change en rien les résultats du modèle standard. C'est-à-dire,
ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà du modèle standard.
Exactement, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose au-delà.
Au-delà.
Le neutrino massif...
Mais il n'est pas parfait. Donc, le modèle standard, il n'est pas
dans
complet.
Son domaine, il marche remarquablement bien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ça que je veux dire. Ça ne doit pas... Quoi qu'on invente, ça ne doit pas casser ce qui marche. Voilà. Ça doit être au-delà, en plus...
Et donc, pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, les forces de l'infiniment petit marchent plutôt bien. Elles sont difficiles à remettre en question, en termes d'interaction, vraiment. Il y avait d'autres questions ? Il faudra ramener un micro vers devant pour après.
Oui.
Monsieur, au fond ?
Oui, pour être peut-être plus dans la science-fiction. Il y a la théorie des Bran que j'ai pu lire, hein, où, il parle d'univers parallèles, hein, où la gravité serait faible parce qu'elle fuirait dans d'autres Bran. Hein. Et est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse, en fait, que la gravité qu'on voit sur notre univers viendrait de branes différentes, hein. C'est quelque chose de complètement absurde. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette théorie, mais...
Oui, enfin, c'est issu de ce qu'on a... Enfin, ça part, évidemment, de la remise en cause du modèle standard, enfin, de l'amélioration du modèle standard à travers ce qu'on appelle la théorie des cordes, où les particules ne sont plus un point, mais finalement une corde, donc quelque chose qui a une structure. Et on a imaginé que l'univers, d'ailleurs, pourrait se comporter comme une branne gigantesque, et que, par exemple, ça pourrait donner lieu à des univers cycliques, c'est-à-dire, après l'expansion qu'on est en train de vivre, il y aurait une contraction, et qu'ensuite, effectivement, le choc de deux Bran, à ce moment-là, remettrait l'univers en expansion et ainsi de suite. Il faut dire que ces modèles-là sont très, ce qu'on appelle nous, spéculatifs, c'est-à-dire, comme tu le disais tout à l'heure, elles sont basées sur des hypothèses dont on n'a pas encore la moyen de tester quoi que ce soit. Donc, les dimensions supplémentaires qui sont invoquées dans ces modèles-là, malheureusement, il n'y a aucun test possible à l'heure actuelle. Donc, on reste prudent, on garde ça sous le coude un petit peu, en se disant que peut-être, effectivement, une réflexion sur la structure de l'espace-temps, sur les dimensions... C'est vrai que pourquoi quatre dimensions ? On n'est pas forcé d'avoir quatre dimensions. Et donc, voilà, on cherche un petit peu à mettre en évidence, mais alors à l'échelle microscopique aussi, les effets de ça avant de le transporter dans les modèles d'univers. Mais bon, c'est aussi un peu le jeu pour les théoriciens de l'appliquer tout de suite au modèle de l'univers. Et c'est pour ça que, vu les difficultés de la cosmologie actuelle, ces modèles-là ont repris à un moment donné un peu de vigueur. Bon, maintenant, ils ont leurs propres difficultés. Ils ont énormément aussi de quantités de variantes possibles. Donc, c'est dur de s'y retrouver. Et c'est quand même des affaires de très, très grands spécialistes. Donc, on n'est pas non plus au bout de nos peines. Mais comme tu le disais, la science, c'est quoi ? C'est très intéressant parce qu'on n'a jamais la réponse. Enfin, vous avez bien compris. On n'aura jamais la réponse. Mais on progresse, on voit les choses un peu plus de façon globale. Et c'est ça qui est très excitant.
Ouais. Il y a d'autres questions ? Monsieur Devant, si c'est possible. Ouais.
Bonjour. Alors, je vois que vous avez les idées noires, matière noire, énergie noire, tout est noir chez vous. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que la limite, ce n'est pas finalement soit nos mathématiques qui sont des mathématiques dignes d'un monde de fourmis ? Nous sommes limités par nos mathématiques. Ou alors notre cerveau, notre intelligence, limitée, c'est-à-dire nous ne pourrons peut-être jamais comprendre l'univers, puisque nous sommes en fait intellectuellement plus que très limités. Merci.
Ben, moi, je ne pense pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'univers ? Qu'est-ce qu'un modèle physique ? C'est une représentation mentale pour les hommes, parce que c'est sorti du cerveau de l'homme, et ça nous suffit. Il nous suffit de nous faire une bonne représentation mentale du monde qui nous entoure. avec les outils qu'on a à chaque époque. D'ailleurs, on a fait ça à chaque époque. Aujourd'hui, on est enthousiasmé par l'idée du Big Bang, etc. Et c'est très bien. C'est notre imaginaire qui est transporté là-dedans. Maintenant, le prouver de A à Z, on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Parce que demain, le Big Bang sera autre chose, bien évidemment. Dans 100 ans, on parlera d'autre chose. On dira, vous voyez, à l'époque, ils pensaient que c'était le Big Bang. Donc, on en est très conscient. Mais ça nous suffit. En tant que physicien et scientifique, on améliore notre représentation mentale. En plus, elle est très liée à notre époque. Notre mentalité d'aujourd'hui n'est pas celle il y a 2000 ans, ne sera pas celle dans 2000 ans. Mais c'est ça la science, c'est nous faire une meilleure représentation mentale et la partager avec les autres aussi. C'est pour ça que la médiation scientifique est très importante. Si nous, on était tout seul dans nos équations, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On veut que tout le monde se saisisse de la représentation du monde que nous avons construite. Et que tout le monde doit donner son avis d'une certaine façon. Dire, ah ben là, je n'y crois pas tellement. Tant pis, si vous n'avez pas les bagages mathématiques, c'est l'imaginaire. C'est pour ça que la science-fiction, c'est quand même un des mondes sur lequel l'imaginaire reprend le pouvoir. Et donc, en fait, il faudrait peut-être qu'effectivement, notre science, peut-être, s'alimente plus. Je dis ça alors que moi, je suis un très, très mauvais lecteur de la science-fiction. Donc, j'ai un peu honte ici. Hein, mais bon, c'est vrai que c'est la représentation mentale qui est la plus importante. Et alors là, pas de souci, on ne sera jamais juste. Mais on sera satisfait de ce qu'on a fait. C'est ça, la démarche scientifique.
Faut t'avouer à moitié pardonner.
Et pour compléter, je pense qu'on est, même si on cherche de la matière noire, qu'on a envie d'observer l'énergie noire, on n'est pas du tout noir, au contraire. On est extrêmement positif, on est convaincu, a priori, qu'aujourd'hui, en 2018, on peut encore améliorer ce que nos ancêtres ont fait, et que demain, nos enfants pourront reprendre aussi le flambeau pour continuer à mieux comprendre ce qui nous entoure, dans un contexte où on est confronté à quelque chose d'énorme, et qui malheureusement ou heureusement fait que l'homme peut rester passionné par cette nature qui nous entoure, qui est colossale en termes de quantité et de taille. Mais alors aujourd'hui c'est noir parce qu'on sait ce que c'est, le jour où on pourra dire c'est cette particule ou c'est monde, c'est la gravitation modifiée qui explique la matière, on le dira.
Voilà. Et tout deviendra lumineux.
Non mais déjà, rien que d'avoir eu l'idée qu'il manquait quelque chose, d'avoir fait ces observations-là et d'en avoir déduit qu'il manquait quelque chose et d'avoir dit que comme on ne comprend pas grand-chose, c'est noir, moi je trouve ça brillant personnellement. Donc,
On arrive au terme de cette table ronde. Je vous signale qu'il y a un très bon article du Gorafi qui signale que les associations antiracistes demandent la suppression des termes énergie noire et matière noire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation dans ce festival. Merci à nos quatre intervenants.